L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Les cimes du circuit automobile de Spa-Francorchamps frémissent sous l'enjeu. À la pointe de la gloire, le sommet du Rédillon. Aujourd'hui se déroule la 8e édition des 1000 km de Spa. L'antre du sport automobile belge a déjà vécu des moments mythiques qui ont fait sa légende. La pluie tombe à seaux. Les pilotes, abrités dans la voie des stands, craignent ce sol trempé et nombre d'entre eux, avant de prendre le départ, s'isolent et se recueillent. Pour chacun, le destin a déjà décidé de leur sort. Mais l'implacable destinée s'est arrêtée avec plus d'attention sur deux pilotes qui, côte à côte, s'installent dans leur voiture. Deux Porsche, les 917, monstres absolus du macadam, bleu et orange, sauce Gulf. Les deux minotaures de la piste attendent, noyés sous les trompes d'eau des Ardennes. Ah oui, la cime des arbres est en train de ployer. Joe Seifer et Pedro Rodriguez s'apprêtent à entrer au panthéon des dieux du sport. Le tout en 3 minutes à peine. Et comme d'habitude, ils le feront ensemble. Les âmes jumelles de la course automobile échangent un dernier regard. Que le meilleur gagne, c'est habituel. Nous sommes le 17 mai 1970, en début d'après-midi. Le vent s'en mêle, les gouttes fouettent les cockpits. Il est 13h et c'est l'heure H de mon histoire. Un petit quart d'heure avant le départ, John Wire, du département ingénierie de l'écurie qui porte son nom, et Œil du Lynx, observe l'alchimie entre ses pilotes. D'un côté, Joe Seifer, le charme britannique alors que ses papiers sont pourtant suisses, comme lui, porte une petite moustache naissante sous le nez et une mèche bouclée qui vient mourir au-dessus de ses yeux. De l'autre, Pedro Rodriguez, petit furieux, tout droit venu des terres mexicaines, est un écorché vif bastonné par la vie. Il conduit toujours comme si l'enfer était la ligne d'arrivée. John Wire a sous la main deux monstres de pilotage, il le sait. Et à chaque départ qui se profile, il est pourtant en stress total. Disons que le pragmatisme de Seifer ne l'inquiète pas, non. Mais mettez ce flegme au contact de la furie du Mexicain et le mélange qui en ressort est absolument explosif. Ces deux-là en piste vous collent de l'anxiété dans les chines et la nausée dans l'estomac. John Wire, pourtant, n'est déjà plus un gamin. 61 printemps passés, dont plus de la moitié au contact du goudron qui chauffe et des pneumatiques usés des supercars. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis longtemps, il fume une cigarette, puis une deuxième. Sa femme, si elle le voyait, lui courrait après. Heureusement, le paddock des forts de 917 est une forteresse imprenable, même pour une femme furieuse. Voilà d'ailleurs que les montures de ses pilotes sont débâchées. Deux numéros, 24 et 25, pour la gloire et le succès. Comme un aimant, les regards de Seifer et Rodriguez, qui parlent près de la porte du garage, sont chacun attirés vers leur voiture. Ces pilotes-là sont d'une autre trempe et dégagent ensemble une espèce d'aura particulière. John Wire n'a jamais vu ça. Une sorte de rivalité saine, ça oui. Mais c'est encore différent. Ils sont comme liés. Un truc indéfectible, unis les deux. Impossible de dire ce que c'est. C'est comme si l'effet du destin s'était penché sur leur berceau à 4 ans d'intervalle pour les unir. Le patron de l'écurie est le seul à le percevoir, à humer ce parfum de connexion particulière. Les deux pilotes eux-mêmes, très certainement, l'ignorent. Wire fume clope sur clope parce que l'ambiance à Spa cette année est différente. La pluie, qui s'abat sur eux depuis des jours, n'est vraiment pas pour lui plaire. L'ancien bolide à plus de 200 km par heure sur une piste trempée et vous allez voir. Oh, l'accident n'est jamais loin. Oui, l'ambiance du jour est... Il ne sait pas, à vrai dire. Les traits sont tendus, ça c'est certain. Pas de sourire sur les visages. Au bord de la piste, le public, nombreux, attend la sortie des voitures. Le patron de l'écurie fait un signe de tête à ses ingés qui se décident à lever la porte mécanique du garage. Aussitôt, le vent et la pluie s'y engouffrent. Les gouttes viennent s'écraser sur les combis. Cipher met sa mèche à l'abri. La foule se lève à la sortie des Porsche 917, poussée lentement à plusieurs bras. Elles s'élanceront en première ligne. Bon, pas étonnant. Ces deux bagnoles déjà sont légendaires. En termes de performance, mais aussi et surtout, grâce à leur couleur Gulf, qui les rendent aussi célèbres que le pape. John Wire, à l'abri, sous le dernier auvent avant les trompes d'eau, regarde passer sans un mot ses équipes et ses deux pilotes. Les trois hommes échangent un long regard. Pas un mot, tout est dans les yeux. Le premier à les baisser, c'est le patron de l'écurie. Oh merde, il se prépare vraiment quelque chose. Le vieux John, tremblotant, ressort une cigarette. La fine couche de poussière sur les calandres est vite emportée par ce déluge digne des aventures de Noé. Le bleu et orange des Porsche, bientôt, hypnotise le public. N'en déplaise aux 33 autres participants, les stars, ce sont les Allemandes. Sur la piste et dans les tribunes, les cirés rouges et jaunes viennent s'agiter autour des bolides et sous les parapluies. Personne n'est parti malgré le mauvais temps. Le public aussi sent cette atmosphère particulière. C'est comme si, là, dans les bois alentours, les dieux du sport auto s'étaient installés. Le destin est joueur. Il est là, lui aussi. Cipher le sait, il le connaît. Le Suisse, à la fine moustache, le remarque souvent autour des circuits. Toujours la même tenue, la même dégaine. Un homme grand, en impair, cigare aux lèvres et fedora noir vissé sur la tête. Son visage est caché derrière la fumée. Plusieurs fois, Joe avait tenté de l'approcher sans succès. Parfois, les choses les plus folles ne peuvent s'expliquer. Peut-être que cet homme n'avait rien d'irréel, qu'il était juste un officiel. Mais ses apparitions sont rares et toujours avant les départs. Bizarre, hein ? Il est encore là, un peu plus loin. Ouais, séparé par une foule en mouvement, les deux hommes se toisent. Rodriguez, lui, est déjà dans sa voiture. Joe, sous le parapluie tendu par son coach qui lui prodigue ses derniers conseils, attrape sa pipe. Son zippo claque dans l'air. L'homme destin, sous son chapeau, n'a pas bougé d'un pouce. Les haut-parleurs passent en boucle les meilleurs titres de l'année. Du Black Sabbath en l'occurrence. Les premières notes hurlées par Ozzy Osbourne envahissent les conifères des Ardennes et les deux hommes, toujours, se fixent. Le titre « Paranoïde » comme un symbole, vient arbitrer le duel entre le pilote et sa destinée. Cipher en a la conviction, et alors que son coach lui parle dans le vent, il est persuadé qu'il va gagner cette course. Ce gamin venu du Mexique a beau être un dieu de la piste, le meilleur des deux, c'est lui. Maintenant, il implore mentalement le mec en impair de l'autre côté du parapet de lui faire signe. Mais rien. Juste la fumée du cigare qui s'étiole et, de temps en temps, le poing rougeoyant prouve que celui qui fume prend une bouffée. Sa pipe à lui s'est éteinte. Nouveau claquement de zippo sur la piste. Cipher regarde sa montre. Il lui reste 7 minutes. Il enfile son casque qu'on lui tend, vide sa pipe contre sa semelle. Sa cagoule lui bouche la vue quelques secondes. Le fumeur de cigare s'est fait la malle dans l'intervalle. Le voilà seul. Le Suisse glisse dans le baquet qui a eu le temps de se mouiller légèrement et le voilà au volant de son monstre. Jamais. Il n'a craint de piloter l'une de ses voitures. Jamais. Mais cette caisse-là, c'était comme un croque-mitaine qui viendrait faucher ses rêves d'enfant. Cipher met le contact. Le moteur se met à ronronner. Soudain, son regard est accroché par celui de son jeune coéquipier. Il se fixe. Il n'a jamais eu besoin de parler à Rodriguez pour qu'ils se comprennent. Leur part de dialogue dans leur relation commune est minime. Tout passe par le regard. Que se disent-ils dans cet échange visuel qui semble long ? Eh bien, nul ne le sait. John Wire aussi l'ignore. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il pressent au plus profond de lui-même, c'est que cette course entrera dans l'histoire de ce sport et qu'une seule des deux voitures passera la ligne d'arrivée. Lui aussi, il a vu le sale type qui fume des cigares en impair et, contrairement à Cipher, pour lui, c'est pas bon signe. C'est dans un brouhaha du tonnerre que démarre cette course exceptionnelle. Rendez-vous au premier virage. Cipher et Rodriguez ne se regardent plus. Ils ont chacun les yeux collés au sol. Le bitume dévore autant les espérances que les rêves à la moindre faute d'inattention. Les 917 à pleine vitesse semblent flotter au-dessus du sol. Le spectacle est totalement subjugant. Magnifique. Les Romains antiques s'extasiaient devant les courses de chars durant lesquelles les plus beaux chevaux du monde concouraient les uns contre les autres. Aujourd'hui, cette course à Spa n'a rien à envier à celle du Circus Maximus. Baudelaire, Alain Fournier, Oscar Wilde verraient de la poésie dans cette bagarre pour la gloire. Alors quoi ? Quoi ? Personne n'est capable d'aller décrocher la Lune ? Et trompez-vous, ces deux hommes-là, dans des Porsches tout bonnement extraordinaires, eux, le peuvent. L'épingle de la source, puis la descente, Cipher a une toute petite avance sur le Mexicain. Le petit jeune venu d'Amérique dans sa combi est déjà en nage. Il passe les rapports comme un damné. Des flammes dans les yeux, le seul cavalier de l'apocalypse, c'est lui. Il a largué les trois autres. Et Cipher alors ? Son pilotage est totalement différent et c'est ça qui, incontestablement, rend ce duel si savoureux et particulier. Il va aussi vite, voire un peu plus, que le jeune coq assis dans le monstre mécanique à côté de lui. Pourtant, dans ses gestes, aucune haine et assez peu de hargne. Le flegme du Sussex mélangé à la philosophie Wire. Voilà ce qui rend Joe Cipher si particulier. Attention, Rodriguez n'en est pas moins spécial. Simplement, ces deux-là se battent avec les mêmes armes, mais dans un style tout à fait différent. Les voilà en bas de la fameuse descente qui introduit le Rédillon. La côte est monstrueuse, 17 degrés d'enfer sous une pluie battante. La visibilité est tellement mauvaise que les deux pilotes ne distinguent pas les bas-côtés. Et les autres concurrents ? Attendez, je regarde. Ouais, ils sont déjà largués. Titiller John Wire et ses dieux du circuit est loin d'être aisé cette année. Joe Cipher, de lourdes gouttes de transpiration coulant dans sa cagoule, passe un nouveau rapport lancé à pleine vitesse. Mais l'élan de son équipier est meilleur. Et voilà qu'il remonte. Nom de Dieu, Rodriguez, tu ne vas pas m'avoir. Allez, pied au plancher cette fois. Cipher sort de sa réserve. Fini le flegme à la sauce, salon T de 17h. Il est temps de se battre à mort. Tels des gladiateurs lancés à pleine balle l'un contre l'autre, ce premier tour de course entre dans la légende. La voiture numéro 25, soudain, à l'intérieur du virage, sent une pression sur sa droite. Juste avant d'attaquer la pente, le pilote de la 24 s'est déporté sous l'effet de la piste mouillée et sa voiture en vient toucher la portière de l'autre. Les deux hommes sont l'un à côté de l'autre, comme à la parade. L'image est sublime, légendaire, héroïque même. Les mots manquent aux témoins de ce moment d'anthologie du sport. John Wire, depuis les stands, ébahi, ne peut même pas contrôler les larmes qui coulent sur ses joues. Mais que font-ils ? Ils vont se tuer et défoncer leur bagnole. À l'instant T, les photographes qui sont là mitraillent avec leurs appareils argentiques. Peu importe si l'une ou l'autre des images sont ratées. Les flashs crépitent en rafale. Les autres pilotes derrière, qui ne voient que l'arrière des Porsche, sont tout aussi interloqués que les dizaines de milliers de spectateurs. Cipher et Rodriguez, au cœur de l'action, eux, enragent de se toucher, mais ne réalisent pas cette soudaine gloire qui vient de les frapper en plein casque. Ce moment suspendu au son de Rocketman d'Elton John dans les tribunes provoque des milliers de cris de surprise et d'effroi. Ça y est. Les 917 vont se cracher au pire endroit et à cette vitesse. Nul doute qu'on y comptera au moins un mort. ceux qui ont gardé leurs capuches les enlèvent et se lèvent d'un seul homme. La scène ne dure que quelques secondes. Elles paraissent des heures à tout le team qui est sorti du stand. Tous courent vers les écrans pour regarder la scène la plus improbable qui puisse se dérouler en sport auto. Deux coéquipiers qui se rendent coup pour coup pour décrocher la lune. Mais si le frottement des portières vient mettre à mal la légendaire carrosserie bleue et orange Golf, Seifer a pu, grâce à un maniement magistral de sa boîte de vitesse, se tirer du piège. Sa voiture numéro 24, en haut de l'un des virages les plus célèbres du monde, vire en tête. Joe Seifer a eu le temps d'apercevoir, en se dégageant, son fumeur de cigare. Cette course, elle est pour lui. Désolé Pedro, pas cette fois. Effectivement, la suite de la course donne raison au Suisse qui franchit la ligne d'arrivée 1000 km plus loin, gérant parfaitement ses relais avec son coéquipier, le Britannique Redman. Il devance de peu le régional de l'étape, Jackie Hicks, qui court dans une Ferrari. Elle a d'ailleurs un moteur qui fume plus que le Vésuve, un jour d'éruption. Pedro Rodriguez, lui, a regardé les 30 derniers tours assis sur la carlingue de la numéro 25. Abandon. Une casse en plein milieu du 44e tour. Le Mexicain, comme toujours, enrage. D'une tape sur l'épaule, John Wire vient le consoler. Qu'il se rassure. Personne ne se souviendra du résultat final. Seuls compteront les photos de ce moment d'anthologie, dont il est, lui, assurément, l'un des héros. L'histoire de ces deux pilotes est au départ pourtant totalement différente. D'un côté, Joe Seifer, le Suisse, âgé de 34 ans en 1970, est au firmament de sa carrière. Il a tout connu dans sa vie. La difficulté, surtout. C'est un boiteux. Le regard des autres, il a appris à vivre avec. C'est pour ça qu'il a décidé de ne rien faire comme les autres. De devenir un gladiateur des temps modernes avec une jambe plus courte. À sa naissance, le petit Joseph est arrivé avec une malformation du pied droit. Une première opération à 6 semaines de vie, 1 an de plâtre, mais rien n'y fait. Le pied reprend sa mauvaise position. Le côté droit, c'est celui du père, disent les psychanalystes. Et celui de Joe n'a rien d'entendre. Toute son enfance, le gamin essaiera de le rendre fier, mais aura la fâcheuse impression de ne jamais y parvenir. À l'âge d'un an, donc, il doit subir un deuxième passage sur la table. 6 semaines de plâtre supplémentaires et le bambin peut enfin marcher. Mais pas courir. Sa jambe droite, plus courte, sera de fait bien moins musclée que la gauche. Et Joe, en dehors des circuits, marche souvent avec une canne pour se soutenir. Rien n'y fait. Les soucis de santé s'accumulent et sa scolarité durant la Deuxième Guerre, alors que son père est parti au front, est particulièrement chaotique. Chute à répétition, diphtérie et nombreux passages à l'hosto. Il est dégoûté de tout ce qui s'apparente alors à la scolarité. Il en vient même à détester ça. Oh, de toute façon, ses parents n'ont pas un rond. Lui et ses sœurs doivent aller cueillir des jonquilles pour les vendre dans les rues de Berne. Un boiteux, vendeur de fleurs arrachées dans la forêt. Son avenir à l'époque est loin d'être réjouissant. C'est pourtant à cette époque qu'il rencontre pour la première fois l'homme destin fumeur de cigares. Depuis, il apparaît comme ça à chaque occurrence positive de sa vie. Une bonne étoile en quelque sorte. À la fin de la guerre, il découvre les bagnoles et devient un fan absolu. Il sera pilote de course. Il achète une Peugeot 202 et assiste à de nombreuses courses. Il est d'ailleurs dans les tribunes lors du drame absolu des 24 heures du Mans 1955, qui fait de nombreux morts. En réaction, la Suisse interdit la tenue de course sur circuit. Envolé, l'espoir d'une carrière de pilote. Joe se replie donc sur un diplôme de carrossier. Il est vert de rage. Mais n'abandonne pas. Il part au service militaire et évidemment se fait réformer à cause de sa boiterie qui l'empêche de courir. Il reprend du poil de la bête quand il découvre la moto. S'ensuivent 3 ans extraordinaires de 57 à 59 durant lesquels le gamin fera des prouesses en sidecar. Il se classe 3e en Europe avec quelques victoires de prestige à son actif. De quoi réveiller l'intérêt des écuries de course auto. La suite, elle appartient à l'histoire. Un parcours en junior durant lequel 2 ans sont nécessaires pour le voir percer. La Formule 1 qui arrive assez tôt. D'abord hors championnat dans une Lotus 21 qui défie la mort. Il parvient ensuite à créer sa propre écurie, la Cipher Racing Team, avec une Brabham comme voiture. Dès 66, après quelques podiums et même 2 victoires en Formule 1, il rencontre celui qui deviendra son mentor en endurance, John Wyer. Et c'est à cette occasion qu'il rentre dans une Porsche pour la première fois. Quel coup de foudre. Cette marque, elle est faite pour lui. Alors qu'il monte sur la plus haute marche du podium ce 17 mai 1970, il manque de tomber. Sa jambe trop courte le lâche. Ouais, c'est habituel. Il se rattrape à son coéquipier, l'air de rien, et lance un inévitable regard à Rodriguez. Il aime ce gamin. Il le respecte. La concurrence est rude, féroce, mais il connaît son histoire. Ils sont écorchés vifs, tous les deux. C'est aussi ce qui explique leur incroyable communication non verbale. Les yeux gris-bleus du plus âgé se posent dans ceux du cadet. T'inquiète pas, gamin. Tu n'as déjà plus rien à prouver. En bas du promontoire des vainqueurs, sur lequel il ne montera pas ce soir, Pedro Rodriguez a la haine. Cet abandon, quelle poisse! Le meilleur, c'est lui, bordel! Il respecte son équipier. Il a l'esprit de chevalerie de l'époque du sport auto. Il ne lui fera jamais de crasse, mais tout de même, il n'y a qu'une place de vainqueur, et il la veut pour lui. Voilà qu'il se laisse déborder par ses émotions. Encore. Soudain, un flashback. Celui de l'accident de son frère. C'est régulier dans les moments difficiles. Mais ce soir, il décroche complètement. Et revit le moment le plus difficile de sa vie, comme si c'était hier.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur les destins croisés de 2 pilotes d'exception, reliés dans la vie comme dans la mort. Joe Cipher, le Suisse, est de 4 ans l'aîné de Pedro Rodriguez, le Mexicain. 2 as du volant sont unis par un passé difficile qui les a forgés, les rendant presque invincibles. Ils sont tous deux au volant de magnifiques Porsche 917 qui écrasent toute concurrence par leur beauté et leur classe sur les pistes du monde entier. Ces deux-là vont vivre à 100 à l'heure et partager des moments dingues comme seul le sport auto est capable d'en créer. Alors que Cipher vient de gagner les 1000 km de Spa, Rodriguez, lui, contraint à l'abandon avant la fin, se retrouve en proie avec ses démons du passé. En sortir sera difficile. Pedro Rodriguez se retrouve plongé le 1er novembre 1962. Ses songes le conduisent toujours en fin de matinée de ce jour tragique à Mexico. Jamais, jamais ses visions ne sont particulièrement nettes. Le traumatisme qui a découlé de cette journée a laissé des traces indélébiles, certes, mais elles ne refont surface qu'à des moments bien précis. Cette Lotus 24, privée par exemple, que son frère allait piloter pour le premier Grand Prix organisé au Mexique. Ricardo, c'est le nom de son frangin, était sans conteste le plus populaire et talentueux de la fratrie. En 61, ils sont passés ensemble à 2 heures près de gagner les 24 heures du Mans. La légende des Rodriguez Brothers au Mexique était déjà en marche. Ils étaient les idoles des jeunes des quartiers difficiles. La preuve que tout est possible. Ricardo fut le premier pilote mexicain à rouler pour la Scuderia Ferrari en Formule 1. Pedro regardait son cadet avec les yeux brillants de fierté. Première épreuve au Mexique, mais hors championnat. Une sorte de version d'essai. Le gamin avait tout d'un futur champion. La vitesse, la hargne, la technique, tout y était. Il défiait la mort à chaque virage comme un dieu descend de l'Olympe. Pedro, dans un épisode flouté, revoit son frère monté dans la voiture sur la ligne de départ. Les panneaux d'affichage sont flanqués des sigles correspondant aux premières séances d'essai libre. Puis, c'est le trou noir. Avant de voir son frangin, transpirant, ressortir de la voiture portée par ses ingénieurs. Il venait de faire le meilleur temps. Il se revoit l'embrasser, le féliciter. Mais il est surtout porté par ses souvenirs. Pedro ne les contrôle pas. Il est perdu, tente de se raccrocher à la réalité, mais perd pied d'une telle force que tout devient incontrôlable. Comme un marin novice victime du mal de mer, il chavire de droite à gauche. Dans sa tête, tout se brouille, tout se mélange. Il voudrait ne pas revoir la suite. Il voudrait ne pas revivre la tragédie de sa vie. Mais son esprit est embouilli. Traumatisé depuis 9 ans maintenant par cette perte qui marquera d'une pierre blanche sa vie tout entière. Tout a été si vite. Dernier tour de la journée. Le soleil commence à descendre. Pedro se souvient être en bord de piste et attendre le passage de la monoplace fendant l'asphalte à toute vitesse. Mais au lieu de ça, sirène, drapeau rouge, arrêt des séances. La courbe parabolique de la Magdalena Mixuka a été le tombeau de Ricardo. Sa voiture a été coupée en deux. Le corps du gamin de 20 ans d'un côté et de l'autre. Aucune chance de s'en sortir. Pedro ne peut s'évader de son propre esprit qui le prend au piège et, comme dernière pensée de l'horreur, il se revoit avec le président du pays dans la chapelle ardente. L'homme politique lui a dit que maintenant, tout reposait sur ses épaules. Il avait raison. Pedro allait devoir se surpasser. C'est ce jour-là qu'il l'avait vu pour la première fois, à la sortie de l'église. L'homme destin au Fedora, le même, celui qui fumait des cigares. Il n'a jamais dit à personne. De peur de passer pour un fou, mais telle une prémonition, il savait que cet homme, qui ne montrait jamais son visage, allait marquer de son empreinte son destin à chaque apparition. Il ne croyait pas si bien dire. C'est à ce moment que Pedro revient à lui. Un ingé de l'écurie, à côté de lui ce 17 mai 1970, lui demande s'il va bien. Le Mexicain hoche de la tête que oui. Pourtant, il ment. Il sait que quelque chose ne va pas. Rodriguez, malheureux d'avoir laissé la victoire de Spa à son équipier suisse, n'a pourtant plus rien à prouver. C'est lui qui a gagné les 24 heures du Mans en 1968. Tout de même, l'une des courses les plus fantasmées au monde lorsqu'on est pilote. Mais la rivalité presque chevaleresque entre ces hommes ne peut être comparée à rien d'autre. Il n'est pas possible, vraiment pas, de relier ce type de relation à une autre. Être coéquipier en sport auto, c'est aussi à tous les coups être rivaux. Mais à l'époque, cette rivalité est saine dans la plupart des cas. L'épisode des portières de Spa le prouve sans aucun doute. Chacun cherche à être le meilleur, mais personne n'en voit l'autre dans le fossé. Cela s'explique de la plus simple des manières. C'est la mort qu'on défie à chaque virage dans ces machines pas du tout sécurisées. La saison 1970 marque celle de l'incroyable domination pour les Porsche 917 alors que l'année précédente, cette même voiture était un danger public. Bien que ce soit Seifert qui gagne à Spa, le grand favori pour le Mans, c'est Rodriguez. 6 manches en championnat sont déjà jouées, dont 3 pour lui et son coéquipier finlandais. C'est un bilan incroyable pour l'époque. Le Mans est donc pour eux, c'est une certitude. Pedro veut absolument gagner et définitivement faire savoir qui est le patron au sein de chez John Wire. C'est lui, et c'est pas si fort. Mais le destin ne se commente pas. C'est incontestable. La roue tourne, même lorsqu'on est installé dans le monstre le plus rapide de la discipline. Ils vont pourtant apprendre à leurs dépens, tant Rodriguez que Cipher, que puissance ne rime pas avec fiabilité. Le Mexicain rate ses qualifs, par cinquième avant de prétendre à la troisième marche du podium. Il n'ira pas plus loin que ça. Un problème mécanique l'oblige à abandonner, comme à Spa, mais cette fois, au bout d'1h25 seulement de course. C'est la poisse. D'autant que Cipher, lui, continue et s'installe en tête. Rodriguez en vient presque à espérer un abandon de son coéquipier. Et cet abandon arrive. Sur régime à la mi-course, casse-moteur. Fin du rêve pour l'édition 1970. Les 917 repartent de la Sarthe avec un bilan calamiteux. Mais rien n'est jamais perdu. L'année suivante, les deux génies du volant sont reconduits dans leur baquet. La nouvelle version de la 917 est géniale. On la surnomme la longue queue. Elle est beaucoup plus effilée que le modèle précédent. Mais garde son magnifique combo de couleurs orange et bleu. C'est le retour aux affaires pour les deux coéquipiers rivaux. De nouveau Le Mans, pour la 39e édition. De nouveau une domination nette et sans bavure du Mexicain aux essais. Il est le premier qui dépasse les 250 km par heure de moyenne dans les célèbres Hunaudières. Il boucle le tour dans un temps exceptionnel de 3 minutes, 13 secondes et 9 centièmes. Une terreur de l'asphalte. Cipher en est sonné, mais il a beau être le meilleur en vitesse de pointe. L'équipage de Rodriguez, de nouveau, rentre au stand en toute fin de nuit à 5h du matin. Encore une casse. Encore un abandon. Le Mexicain vient de laisser filer sa dernière chance de gagner Le Mans. Et Cipher, allez-vous me dire ? Abandon lui aussi. Le grand vainqueur sur Martini Racing s'appelle Helmut Marko. Si Cipher prend un véritable coup sur le casque avec cette nouvelle désillusion, son impétueux rival ne veut pas se laisser aller pour autant. Le 27 juin 1971, il obtient une victoire d'anthologie en Autriche, sa dernière. Ni l'un ni l'autre ne l'ont remarqué, mais l'homme destin, au fedora et au cigare fumant, ne vient plus leur rendre visite avant les courses. Leur destinée leur échappe. La chute s'annonce aussi vertigineuse que l'ascension fut belle. C'est le terrible destin des âmes jumelles. Elles s'éteignent souvent sans prévenir, l'une après l'autre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, mon heure H porte sur deux destins croisés du sport automobile. Joe Cipher et Pedro Rodriguez sont de ces trempes qui font les pilotes qui marquent leur époque. Ils ont tous deux participé à rendre mythiques les Porsche 917. L'un remporta les 24 heures du Mans, l'autre courut après cet objectif toute sa vie. Mais plus important encore que leur vie, ce sont leurs morts, tous les deux, qui rend cette histoire exceptionnelle. Rivaux sur la piste, coéquipiers avant tout, c'est comme si, à la manière de deux inséparables, l'un ne pouvait vivre sans l'autre. La destinée les a appelés. Elle sera suivie de près par la légende. Nous sommes le 11 juillet 1971. Pedro Rodriguez a mal dormi. Des flashbacks toute la nuit l'ont torturé. Il n'a pas fermé l'œil. Et aujourd'hui, une course se dispute. En prenant son café ce matin, il a hésité longtemps avant de prendre le départ. Il est hagard, assailli par une sale sensation, un mauvais pressentiment. Mais il a donné sa parole. Alors le Mexicain se fait une raison. Sa voiture du jour est une Ferrari 512M, un bonheur à la conduite autant qu'elle peut se montrer imprévisible. Il adore ça d'habitude, les monoplaces. Mais aujourd'hui, il ne se sent pas bien. Il ne répond pas quand on lui parle, semble perdu dans ses pensées qui ne cessent de venir le torturer. Parmi elles, un nouveau scénario s'immisce, celle de son petit frère mort avant lui qui l'appelle. Pedro, pour oublier, prend des médicaments avant le départ. Il enfile son casque, regarde autour de lui. Il parcourt des yeux l'assistance, les spectateurs de Nuremberg. Ouais, rien de spécial. Ah, si ce n'est une chose, cet homme bizarre, celui en impair, n'est pas là. Non, il ne le voit nulle part. Il n'y voit pourtant pas un mauvais signe. C'est sans doute une course comme une autre. Et le cœur lourd, Rodriguez s'élance. Il ne roulera pas longtemps. De manière totalement inexpliquée, le pneu avant droit de la Ferrari se dégonfle au fil de la course, jusqu'à en devenir incontrôlable à pleine vitesse. La voiture déraille, Pedro aussi. La monoplace rouge s'écrase dans la pile d'un pont. Pedro est mort sur le coup, comme il a vécu, à pleine vitesse. Il ne peut le voir, mais du haut du pont, un homme observe la scène. Il fume un cigare. Lorsqu'il apprend la nouvelle du décès de son coéquipier de longue date, Josipher est effondré. Perdre un pilote du paddock, rival ou pas, c'est toujours une catastrophe. Mais perdre Pedro, avec ce lien si particulier, c'est tragique. Le Suisse réfléchit longuement les jours suivant le drame. Doit-il continuer ou arrêter de courir ? Lui aussi commence à être habité par un mauvais présage qui le torture. Il fait des cauchemars, se voit mourir au volant et cela devient de plus en plus réel. C'est très perturbant. La saison 1971 a pourtant été la plus aboutie depuis ses débuts en Formule 1 et la rivalité avec le Mexicain s'était presque équilibrée avant que ce dernier ne rejoigne le panthéon des victimes du bitume. Après tout, pourquoi continuer ? Il a déjà couru 41 courses entre la Formule 1, l'Endurance et la Can-Am, une discipline dans laquelle il a créé sa propre écurie. Il ne reste plus qu'un Grand Prix cette saison, le 31 octobre. Alors, Joe se remotive. Une course de plus, après tout, c'est ce qu'il fait depuis toujours. À ce moment-là, le Mexique annonce que suite à la mort de Rodriguez, l'épreuve sera annulée. Tous les pilotes décident d'organiser une Victory Race qui se tiendra le 24 octobre. Jackie Stewart est sacré champion du monde pour la deuxième fois. L'idée est de tout simplement commémorer le décès de Rodriguez et de célébrer ensemble la deuxième couronne du double champion. Seifert hésite. Il hésite d'abord à prendre le volant et puis accepte finalement. Il prend la pole position, au volant d'une BRM. Le jour du départ de la course, une nuit plus difficile qu'une autre, met à mal ses capacités. Il le sent, il est malade, il est fiévreux. Cette fois-là, il est assailli par l'omniprésence de l'homme à l'impair, qui l'appelle même. Alors qu'il met un premier coup d'accélérateur, il le voit planté au bout de la ligne droite. Il braque, met ses roues dans l'herbe pour éviter de justesse. Un certain Ronnie Peterson. Voilà Joe reparti à la 10e place et le cœur plein d'orage, comme habité par l'idée que c'est peut-être son tour aujourd'hui de faire le grand saut. Il accélère à toute vitesse. Il attaque le 15e tour à une très honorable 4e place. Et à la sortie d'un virage, le pilote qui le suit voit la BRM faire une embardée à vive allure. Joe vient d'éviter en fantôme Pedro Rodriguez. La voiture heurte un remblai tel une balle rebondissante. Lancé à 260 km par heure, le Suisse s'écrase contre un panneau de signalisation de la piste, repart sur le talus, se retourne, perd une partie de son réservoir. Dans son élan, la voiture passe même au-dessus de la tête des commissaires de course, puis s'écrase au sol et finit par exploser. Seifert a vraisemblablement vite perdu connaissance. Mais avant de fermer les yeux, une dernière fois, au travers des flammes, il remarque l'impair. Son destin est venu le chercher. Le Suisse mourra asphyxié. En quelques semaines, John Wire aura donc perdu ses deux pilotes les plus emblématiques du moment. Une véritable catastrophe. Rapidement, l'histoire de ces deux coéquipiers qui se sont battus à la loyale, portière contre portière, en Belgique et qui meurent presque ensemble, à quelques semaines d'intervalle, fait le tour du monde. Depuis, la rivalité de Cifer et Rodriguez en endurance est entrée dans la légende. Mais leur histoire est beaucoup plus extraordinaire que celle d'une bagarre entre coéquipiers qui finit par mal tourner. C'est avant toute chose celle d'une certaine idée de la gloire, du panache, et deux hommes qui, derrière un volant, ont cherché à combattre leurs démons. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.